On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Dans cette société, en pleine crise et en pleine mutation, Étienne décide de faire sa part de colibri en s'attelant à un sujet qui nous touche tous, l'argent. Étienne suggère de quitter notre système financier actuel qui crée des inégalités criantes, abandonner notre état de compétition permanent et revisiter tout simplement notre relation à l'argent. Pour créer une société plus juste et plus respectueuse de l'être humain et de son environnement, avec une économie symbiotique où l'argent ne serait plus qu'un créateur de liens. Les monnaies complémentaires pourraient être une des premières approches de la transition. Étienne, bonjour, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est pour toi une monnaie complémentaire ?
Une monnaie complémentaire, c'est une monnaie, donc c'est un système monétaire qui vient en complément de l'euro, donc qui remplace pas l'euro, mais qu'on va utiliser dans une zone économique précise ou pour des services précis.
Pourquoi ? Quel est l'intérêt de créer une monnaie complémentaire ? Quel est le problème avec l'euro ? Pourquoi est-ce que tu penses, selon toi aujourd'hui, qu'il faut créer ces monnaies complémentaires ?
Le problème avec l'euro, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup même. Même sans aller dans le détail de l'euro, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une monoculture. C'est-à-dire qu'on a un monopole et on a un seul type de monnaie. Même si l'euro, même s'il y a le dollar, même s'il y a d'autres monnaies, le yen, le yuan, etc., elles ont toutes les mêmes bases de fonctionnement. Donc on l'a vu en écologie, si on cultive qu'un seul type de maïs, par exemple, on appauvrit la terre. Et on n'a pas de résilience, c'est-à-dire on se nourrit que d'un seul type de maïs. Or, on sait que notre organisme a besoin d'une variété, d'une diversité alimentaire, d'une diversité dans les espèces, d'une diversité dans la nature. Et on a exactement le même problème au niveau de la monnaie, c'est-à-dire qu'on a un seul type de monnaie qui valorise un seul type de comportement, qui valorise un seul type d'action. Et là, on est arrivé vraiment à la limite de ce système monopolistique. Et donc, on a besoin aujourd'hui d'une diversité, de différentes sortes de monnaies, de différents types de monnaies qui valorisent d'autres comportements, en plus de ceux déjà valorisés par l'euro.
La monnaie, comment est-ce que tu définis ce terme-là ? Qu'est-ce que la monnaie ?
Alors, il y a Bernard Liétard qui donne une définition de la monnaie que j'aime bien, qui dit que c'est un accord de confiance au sein d'une communauté d'utiliser quelque chose comme moyen d'échange. Donc un accord de confiance, l'exemple qu'il donne lui, c'est comme le mariage. Que ce soit conscient ou inconscient, quand on se marie, il y a un certain nombre de règles et on se fait confiance dans une communauté pour vivre ces règles et respecter ces règles. Une monnaie, c'est un accord de confiance, donc encore une fois, on utilise un code, on utilise des règles et on va respecter ces règles dans une communauté. Donc ça veut dire qu'il faut un certain nombre de personnes. Je peux créer une monnaie tout seul, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et d'utiliser comme quelque chose comme moyen d'échange, donc quelque chose, ça peut être une carte, ça peut être des billets, ça peut être des pièces, mais ça peut être aussi des échanges sur un téléphone ou sur un site web, donc ça peut être des chiffres sur un compte, peu importe, comme moyen d'échange, donc cela c'est pour les échanges. On va réaliser des échanges avec cette représentation de la valeur.
Aujourd'hui, dans le discours, on entend beaucoup parler de crise. Donc, il y a une crise écologique, il y a une crise sociale, il y a aussi cette crise économique. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on parle de crise économique aujourd'hui ?
Je pense qu'il y a une crise des valeurs, au sens le plus profond du terme. C'est-à-dire que tout notre système s'est développé principalement en repartant de là où on vient. C'est assez normal, puisqu'au début, on était dans une rareté. Il n'y avait pas assez des choses, donc il fallait chasser pour obtenir la nourriture, il fallait chasser pour agrandir le territoire. Aujourd'hui, on voit qu'on est arrivé à un moment où on a déjà colonisé tout le territoire. Et donc, on chasse encore pour obtenir de la monnaie. Donc, on est dans une situation où la monnaie est rare. La crise des valeurs, pour moi, c'est au niveau du postulat économique de base, qui est celui d'Adam Smith, qui dit « si tous les individus se comportent de manière individuelle et égoïstique, c'est-à-dire s'ils font ce dont ils ont besoin et réalisent ce qui les intéresse, alors, de façon assez magique et incroyable, la main invisible, la sainte main invisible, va réguler les marchés et tout sera parfait. » Je crois que c'était au XVIIIe siècle. Deux siècles après, on se rend compte que si on laisse tous les individus faire ce qui correspond à leur intérêt individuel, on n'arrive pas du tout à une régulation automatique et magique de la vie. Donc on a besoin de changer, de remettre en question ce postulat et de voir comment ça se passe si on ne pense pas juste à notre propre personne, mais si on réfléchit ensemble, ce qui est les biens, les besoins, non pas d'un individu, mais d'une communauté, de plusieurs communautés. À un niveau plus global, je dirais des humains, et à un niveau plus global encore, je dirais des humains en harmonie avec l'environnement. On a bien compris que la planète, on était relié avec la planète, on est sur cette planète et il n'y en a pas beaucoup d'autres qui peuvent nous accueillir pour l'instant. Donc il est question de se dire, c'est quoi, non pas mes besoins personnels, mais nos besoins en harmonie avec l'environnement. C'est-à-dire aujourd'hui, l'argent nous sépare et on est dans une version très individualistique, encore une fois, et égoïste. Où chacun s'occupe de ses besoins. Et là, c'est de dire quelle monnaie on peut créer. Donc le système, expliquer brièvement ce qui ne marche pas dans le système. Et puis après, expliquer qu'il y a déjà des solutions. J'ai rien inventé. Il y a déjà énormément de gens qui travaillent sur ces sujets, qui expérimentent et qui les utilisent, ces monnaies. Donc il y a déjà tout un... Bernard Liétard dit qu'il y a 5000 monnaies dans le monde, comme ça, qui fonctionnent, avec d'autres valeurs. Donc par exemple, on parle de taux d'intérêt positif dans le capitalisme, c'est-à-dire que si on laisse l'argent dans un compte en banque, on va en avoir plus à la fin de l'année. Là, on peut créer des monnaies avec un taux d'intérêt négatif. Et donc la monnaie va perdre de la valeur avec le temps, ce qui va nous... comme le pain. Le pain, si on l'utilise pas rapidement, il va durcir et il va pourrir. Et donc le fait que les choses pourrissent ou que la monnaie soit fondante, on l'appelle fondante, ça oblige à la faire circuler. Si j'ai trop de pain et que je sais que demain il est pourri, bah je vais le donner. Je vais le donner à ceux qui en ont besoin et je ne vais pas le garder bêtement chez moi. Donc c'est de créer d'autres systèmes comme ça. Il y en a déjà énormément dans le monde, donc c'est déjà de montrer un peu un panel des initiatives qui existent, que ce soit en Suisse, au Brésil, aux États-Unis, en France. Enfin, il y en a vraiment un certain nombre, de voir aussi la variété, puisqu'il y en a qui sont faites surtout pour les échanges inter-entreprises. Il y en a qui sont faits pour les échanges dans les communautés, il y en a qui sont faits pour les communautés et les entreprises. Enfin, il y a énormément de choses qui existent de ce côté-là. C'est un très, très vaste domaine où il y a beaucoup de possibilités. Et puis d'inviter justement les personnes à prendre conscience déjà des problèmes, de la limite du système existant, et puis à se lancer eux-mêmes dans une aventure monétaire, c'est-à-dire de créer eux-mêmes leur propre monnaie.
Alors, quels sont pour toi les problèmes? Quelles sont les limites de ce système monétaire actuel?
Alors, que je l'ai dit, c'est l'intérêt positif qui fait que l'argent travaille. Pour moi, l'argent ne travaille pas. J'ai déjà essayé chez moi de laisser 100 € dans un coin. À la fin de l'année, j'ai pas 104 €. Ça ne marche pas. Une personne peut travailler, mais l'argent ne travaille pas à mes yeux. Ce que véhicule ce système et ce qui en résulte, que ça ait été fait volontairement ou pas, peu importe, le résultat, c'est une concentration des richesses. Si on prend la comparaison avec un jeu du Monopoly, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est d'arriver le premier et d'écraser les autres. La résultante de ce jeu, c'est qu'il y en a un qui gagne et que tous les autres joueurs sont perdants. Au fur et à mesure, ils vont perdre. C'est encore plus vicieux dans notre système, puisque ceux qui perdent et qui n'ont plus d'argent peuvent prolonger un petit peu le jeu, parce que sinon ça s'arrêterait et on aurait encore une plus grosse crise, en empruntant à ceux qui ont déjà de l'argent. Et donc ce que j'ai observé moi au Mexique, en Argentine, et qui est finalement un schéma qui se reproduit dans tous les pays, c'est plus t'es riche, plus t'es riche, plus t'es pauvre, plus t'es pauvre. Et si t'es dans la classe médiane, fais attention. La classe médiane, c'est sous-entendu, t'es pas riche et t'es pas vraiment pauvre. Fais attention, parce qu'à la prochaine crise monétaire ou bancaire qui va arriver dans le pays, tu vas te retrouver avec les pauvres. Et généralement, il n'y a que les riches, parce qu'ils ont des personnes qui savent gérer leur patrimoine, qui peuvent s'en sortir. Donc c'est pour moi un système qui n'est absolument pas durable, qui est voué comme une partie de Monopoly. On ne peut pas jouer pendant 3 jours à une partie de Monopoly. Il y a des jeux qui sont très longs, etc., où on a plaisir à jouer longtemps. Une partie de Monopoly, c'est à sens unique. Donc aujourd'hui, notre système, on sait qu'on est à la fin du jeu. C'est-à-dire que tous les pays sont endettés, beaucoup d'États sont endettés, beaucoup de familles sont endettées, beaucoup d'entreprises sont endettées. Donc il n'y a plus assez de joueurs et on est encore en train d'emprunter aux pays les plus riches et on n'y arrive plus. L'autre problème qu'il y a là-dedans, c'est que le fait qu'on emprunte de l'argent aux banques, ce sont les banques privées pour la plupart qui créent la monnaie aujourd'hui, et ça dans tous les pays, ça fait qu'on paye, que la banque est devenue, le droit des banques est devenu supérieur au droit de l'État. Avant, c'était l'État qui émettait la monnaie, donc c'est le droit du peuple, etc. Donc c'est tout à fait juste. En France, c'est depuis 1973, où l'État français, à la fin de l'année, quand il a un déficit ou qu'il n'a pas assez d'argent parce qu'il a dû construire, j'en sais rien, des immeubles, des hôpitaux, des autoroutes pour le bien commun, il doit emprunter de la monnaie à des banques, et ce sont les banques qui la créent à partir de rien. Donc les banques ont aujourd'hui le pouvoir suprême de créer la monnaie, les banques privées. Donc, ça crée un système de compétition de rareté, c'est-à-dire il n'y en a pas assez pour tout le monde. Je peux avoir un projet génial, par exemple j'ai une émission qui va apporter de la valeur, qui va permettre à beaucoup de gens de connaître des initiatives positives. Et aujourd'hui, pour avoir de l'argent, il faut que j'aille voir une banque et que je lui montre que mon projet est rentable et elle va rapporter de l'argent sonnant et trébuchant dans les 2 ans, dans les 3 ans, j'en sais rien. Et si jamais il ne le fait pas, ils auront la garantie, ils pourront prendre ma voiture ou ils pourront me saisir quelque chose. C'est-à-dire qu'eux ne prennent pas beaucoup de risques, mais par contre, ils vont avoir le pouvoir de créer la monnaie et de récupérer les intérêts. Et donc moi, je vais être en compétition avec toutes les autres personnes qui ont pris des crédits pour aller chercher ces intérêts. Et il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc on se bat pour de la monnaie rare, pour rembourser les banques qui ont un pouvoir qui est illégitime et qui n'est même pas relié à la vraie création de richesse. C'est-à-dire que c'est eux qui ont des tableaux Excel pour savoir si c'est rentable ou non, mais on ne prend pas du tout en compte les facteurs qui sont est-ce que c'est bon pour l'environnement, est-ce que c'est bon pour la santé, est-ce que c'est bon pour les humains, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce système.
Toi, Étienne, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'intéresses à l'argent, au système monétaire? Qu'est-ce qui a fait que tu regardes un petit peu ce qui s'y passe et que tu as envie d'aller plus en profondeur et mieux comprendre ce système économique global?
Je crois que comme tout le monde, on est beaucoup marqué par les rapports avec l'argent, que ce soit les parents qui nous disent qu'il faut faire des études, la société, l'argent, ça pousse pas sous la botte d'un cheval. Je crois que c'est ça, le nombre d'expressions qui existent autour de l'argent, c'était clé déjà dans la société. Ce sont les voyages. Mon voyage au Mexique en 2006, j'ai fait une école de commerce et puis j'ai fait une étude sur l'inégalité de répartition des richesses. L'évolution de l'inégalité de répartition des richesses. Donc ce que je disais tout à l'heure, plus t'es riche, plus t'es riche, plus t'es pauvre, plus t'es pauvre. Et au Mexique, c'est d'autant plus vrai que le fossé entre les riches et les pauvres est immense. Moi j'allais dans une université privée où les jeunes avaient 18 ans, ils n'avaient même pas encore le permis, ils avaient déjà des voitures dont je ne connais pas le nom, mais qui sont des voitures énormes de marque de luxe. Certains avaient des gardes du corps, enfin, c'était une université privée qui ressemblait à quelque chose encore mieux que Roland-Garros et Walt Disney réunis, enfin, vraiment le rêve, enfin, une espèce de rêve américain bien sûr. Et puis de l'autre côté, une misère profonde avec des gens qui n'ont pas un sou et qui vivent avec quasiment rien, et donc ce fossé vraiment flagrant. Et au Mexique, c'est quand j'ai rencontré la personne qui faisait les tacos en bas de ma rue, qui me racontait, quelqu'un qui avait un diplôme, enfin, qui avait une éducation, rien de... On peut pas dire de lui c'est un branleur, je dirais, pour défaire un peu les critiques qui pourraient venir. Il avait fait un prêt de 120 000 pesos, il avait déjà remboursé 240 000 pesos, donc 120 000 qui était le prêt initial, plus 120 000 d'intérêts parce qu'il n'avait pas réussi à rembourser les intérêts directement. Et il me dit, il me reste encore 120 000 à rembourser. Et donc ça veut dire qu'il est condamné à faire des tacos. Je ne sais pas si c'est toute sa vie, mais il me disait, Étienne, il y a un moment, il me regardait dans les yeux, il me disait, il y a un moment, ce sera plus facile de prendre une mitraillette et de tirer sur les gens qui viendront chercher les meubles devant ma famille, que de continuer à faire des tacos, parce que c'est une folie. Et donc, ça m'a frappé, bien sûr, ça m'a complètement choqué, et puis ce truc de... Il n'y a pas eu de tsunami, il n'y a pas eu de séisme, il n'y a pas eu d'événement naturel qui s'est produit et qui fait que cette personne se retrouve à genoux face à un système et complètement prisonnière et complètement vulnérable et en train de dire « Est-ce que je vais léguer ça à mes enfants ?» Comment... La révolte d'un homme. Et ce que j'ai vu au Mexique à travers l'expérience de Manolo, je l'ai revu en Argentine puisque j'ai fait un semestre en Argentine en 2008 et j'ai vu que c'était exactement la même chose. Plus t'es riche, plus t'es riche, plus t'es pauvre, plus t'es pauvre. Et la crise qui au Mexique était arrivée en 1994 et qui avait mis Manolo dans cette situation, elle est arrivée en 2001 en Argentine. Donc c'était beaucoup plus récent et beaucoup plus... ça se sentait beaucoup mieux dans l'air, cette faiblesse, ou en tout cas c'est dangereux. Enfin, il y avait quelque chose de dangereux et d'explosif dans l'air, c'est vraiment ça. Et ce que j'ai découvert au Mexique et en Argentine, je me suis rendu compte qu'en fait c'est arrivé au Japon aussi, c'est arrivé au Brésil, c'est arrivé en Russie, c'est arrivé aux Philippines, c'est arrivé en fait dans tous les pays du monde. Et c'est la Banque mondiale qui dit qu'il y a eu 176 crises bancaires dans les 25 dernières années, et je sais plus autant de crises monétaires. Donc c'est vraiment ces études et les voyages qui m'ont fait prendre conscience qu'on avait le même problème en France, mais que ça se voyait beaucoup moins parce que c'était plus lent. Et qu'on n'avait pas une crise aussi forte que le Mexique ou l'Argentine. Mais au Mexique ou en Argentine, quand on emprunte, le taux d'intérêt c'est 20%. Alors qu'en France c'est plutôt 4%. Donc forcément les choses ont un autre aspect. Ces chiffres-là et puis cette dimension qu'en fait c'était pas propre du tout ni au Mexique ni à l'Argentine, mais que c'était vraiment un problème systémique. C'est-à-dire la façon dont la monnaie est créée, et puisqu'on utilise tous le même système, fait que globalement ça tient pas du tout la route et qu'on est dans une impasse. Enfin, ça fait un moment qu'on est dans l'impasse, mais là on continue de pousser la machine.
Mais pour tout temps, dans toutes les époques, on a eu besoin de quelque chose pour pouvoir mettre, pour mieux comprendre les échanges, donner de la valeur aux choses. Est-ce que c'est quelque chose de mal finalement d'avoir créé un jour de la monnaie?
Je crois pas. Je crois pas, non. C'est une façon de. Au début, on était au troc. On échangeait au même moment. Toi, tu avais des poules, moi, j'avais des carottes et on était contents. Le problème, c'est que c'était pas très fluide et c'était pas très pratique. Et donc, à partir du moment où on a créé ce bien, ce média, tout à l'heure, je disais un moyen d'échange, quelque chose qui représente le moyen d'échange, ça a permis plus de fluidité. C'est-à-dire, tu me vends tes poules tout de suite, je te donne un billet qui dit que. Tu as un bon pour 10 et tu as confiance en moi donc c'est bon. Et à l'été, tu pourras utiliser tes 10. Enfin, tu n'as pas besoin d'attendre l'été que mes carottes soient prêtes. Je sais pas si les carottes c'est prêt en été, mais tu vois ce que je veux dire. Et l'avantage aussi de ce billet, c'est que tu peux l'utiliser non pas seulement avec moi, mais avec les autres personnes qui sont dans cette communauté d'échange. Donc ça a apporté de la fluidité et ça, c'est une très bonne chose. Et j'ai rien contre ça. Le problème, c'est que dans les fonctions de la monnaie, j'ai expliqué tout à l'heure ce qu'était la monnaie, dans les fonctions, il y en a trois. Il y en a une, c'est l'unité de mesure, c'est-à-dire comment on peut compter le travail d'une personne ou les carottes, par exemple, on peut les mesurer ben, en tomates, en choux, ou on peut prendre une unité de mesure. Là, on va dire ça vaut 50 euros ou 150 euros, comme le mètre ou comme le décimètre, c'est pour mesurer une quantité. Il y en a un autre, c'est un moyen d'échange, donc ça, c'est on l'a dit, c'est on peut le transférer. Et la troisième chose, c'est la réserve de valeur. Et c'est donc dans les fonctions de cette monnaie, en fait, c'est de créer des monnaies qui retirent la fonction de réserve de valeur. Et quand on retire la fonction de réserve de valeur, la monnaie ne s'accumule plus à certains endroits. Elle n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens de s'accumuler. Accumuler des carottes ou des choux, pourquoi pas, mais la monnaie, le problème, c'est que comme on est en insécurité, on en veut toujours plus. Et donc le fait qu'il y ait une réserve de valeur, une fonction de réserve de valeur, bah on en cherche toujours plus et on en accumule toujours plus. Et ce qui empêche les autres de réaliser leurs échanges. Donc la fonction réserve de valeur vient comment percuter le besoin de fluidité pour permettre le moyen d'échange.
Qui manipule les aimants des montagnes de billets saura sans crainte, sans difficulté les faire multiplier. Et la pensée qui sauve dans les milieux de la fortune, c'est plus on a thune, plus on a thune. C'est dur à croire, difficile de s'imaginer un spermato-fortune et se faire un ovule pour si belle progéniture et belle giclée de monnaie. Et plus on a thune, plus on a thune. Et pas de chance pour tous les membres de la galère. Moins on a thune, moins on a thune. Plus on serre la ceinture, plus on en chie, plus c'est cher. Moins on a thune, moins on a thune. Tu es résigné, résigné, prostré, prostré. Résigné, résigné, prostré, prostré. La France, douce France, a toujours été bien dotée par cet esprit occidental qui fait son hospitalité. Yeah. Depuis des années, la maison veut se protéger et plus des Français. Plus t'es français, c'est dur ma foi de se sentir français malgré soi, de se sentir citoyen parce qu'un sans-papier ne l'est pas. Bref, si on oubliait l'immigration au fond du fossé, et plus t'es français, plus t'es français, petit peuple de France.
Carton rouge, attention.
Plus on est con, plus on est con. Plus on ferme ses yeux, son cœur, son âme et sa maison. Et plus on est con, plus on est con. Et résigné, résigné, prostré. Résigné, résigné, prostré, prostré.
Et ça sert à quoi, mon gars, de chanter ça? Prostré, tu peux changer le monde prostré, et les étoiles sont avec toi. C'est ça sert à quoi, mon gars, de chanter ça? Prostré, tu peux changer le monde prostré, et les étoiles sont avec toi. Résigné,
ça sert à quoi, mon gars, de chanter ça? Tu peux changer le monde et les étoiles sont avec toi. C'est ça sert à quoi, mon gars, de chanter ça? Plus on y croit, plus on y croit. L'océan, une scène aux aguets. Si tu voyais, si tu voyais le long chemin des mots qui se laissent emporter. Si tu voyais, si tu les voyais s'envoler.
Mais l'argent, c'est pas seulement du papier et des pièces. Il y a aussi l'argent, toute la masse monétaire qu'on ne voit pas, qu'on ne mesure pas, qui fait partie des échanges.
Ouais. Et ben les pièces, c'est 3 à 5% de la masse monétaire. Et le reste, c'est 95%, c'est ce qu'il y a sur nos comptes en banque, qui sont en fait juste des écritures numériques. Et puis après, tous les échanges, il y a différentes masses monétaires. Alors ça, c'est un peu compliqué, c'est pas passionnant. Les M0, M1, M2, M3, et pour la plupart, sont des choses virtuelles qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas et qu'on ne comprend pas beaucoup. Aujourd'hui, pour faire une image très... très simple. L'économie, c'est un patient qui serait dans une espèce de coma ou qui aurait un énorme cancer et qui a besoin de poches de sang en permanence et qui est dans une situation complètement critique, c'est-à-dire le cœur bat encore mais tout juste et il faut lui, c'est un drogué qui a besoin de poches de sang et qui a besoin d'énormément de poches de sang. Et le problème, c'est qu'on ne sait plus où trouver ces poches de sang pour satisfaire cette absorption complètement phénoménale qui est en fait la dette. La dette que nous devons tous payer à tous les niveaux, dans tous les sens.
Parle-moi de cette dette.
La dette, pour moi, c'est l'esclavage. C'est le fait qu'on doive payer à un seigneur. Avant, on payait pour avoir accès à la terre. Donc le serf pouvait cultiver une parcelle et devait payer un impôt au seigneur. Et aujourd'hui, on est à peu près exactement dans la même situation. Tous les pays, pour avoir accès à la monnaie, qui n'est pas du coup un territoire, mais juste un bien virtuel, puisqu'on a dit que c'était un accord tout à l'heure, en fait c'est un papier, ils doivent payer un intérêt. En France, la dette est née à peu près en 1973, à partir du moment où la fonction de création monétaire est passée dans le domaine privé. Et donc c'est depuis ce moment où chaque année, quand le gouvernement n'arrive pas à boucler son budget, il va emprunter à des banques privées qui vont créer la monnaie à partir de rien. Et donc aujourd'hui, c'est notre premier poste de dépense dans les impôts. Quand on paye nos impôts, il y a 37% de nos impôts qui vont au service de la dette, c'est-à-dire pour rembourser le capital et les intérêts de notre dette. Donc quand on se bat, par exemple, pour avoir moins de suppression d'emplois, pour avoir une plus de dépenses en écologie, en environnement, ou sur ces sujets qui sont hautement importants, bah, tant qu'on n'a pas réglé ce problème qui nous absorbe, qui nous suce, enfin c'est vraiment un parasite, mais qui nous pompe 37% de notre sang, ben on n'a pas réglé le problème, on n'a pas réglé la grosse fuite, je dirais. C'est comme un bateau qui coule et puis on est en train de dire tiens la voilure est pas très bonne, il faudrait qu'on aille un petit peu plus vers l'est ou vers l'ouest, mais le bateau est en train de prendre l'eau. Ce problème, on a le même dans énormément de pays. Ce que je racontais tout à l'heure pour Manolo, qui lui a payé 120 000 pesos déjà deux fois et qui doit encore le payer une fois. Le Nigeria a fait un emprunt avec le FMI, le gentil FMI, qui leur a prêté 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, ils ont déjà remboursé 16 milliards de dollars, trois fois plus, et il leur reste 28 milliards de dollars à rembourser. Et c'est impossible, c'est de l'esclavage. Enfin, c'est complètement de l'esclavage. Et le problème, c'est que c'est quasiment indolore. Enfin, c'est là, ça nous pompe à chaque instant nos ressources, notre énergie, de tout ce qu'on va mettre dans notre travail, dans nos impôts, etc. On ne sait pas exactement où ça va, on ne sait pas à qui ça va, on ne sait pas pourquoi ça y va, mais ça se produit tous les jours, quoi. Et on fait comme si de rien n'était en se disant « faut qu'on trouve une solution pour rembourser notre dette, pour être plus productif, etc. » Alors que c'est complètement absurde. C'est comme si un esclave se disait qu'il devait travailler mieux pour pouvoir être libéré au bout d'un moment, alors que ce qu'il faut, c'est qu'il se rebelle. Qu'il fasse une révolution et qu'il arrache ses chaînes. Voilà ce que je conseille à nos peuples endettés aujourd'hui.
Alors on va imaginer le monde de demain, le monde que tu vas construire avec nous. Donc comment fonctionnerait selon toi le monde idéal? Comment est-ce qu'on pourrait gérer les échanges entre les hommes?
Je vais te donner deux visions. Il y en a une qui est très schtroumpf et bisounours, mais que j'adore. C'est que je pense qu'il y a un moment où on se rendra compte qu'on n'a pas besoin de monnaie. Il y a un moment où on se rendra compte, c'est ce qui existe déjà dans certaines communautés, c'est ce qui existe déjà dans des communautés de confiance et de partage. On se rendra compte en fait que ça n'a pas beaucoup d'importance de savoir qui a donné quoi et combien, puisqu'on retire et déjà énormément de satisfaction quand on donne et qu'on reçoit. On a besoin d'organiser les échanges et de savoir qui, comment on répartit les choses. Mais je crois que dans ma vision bisounours, en tout cas, la question, on y arrivera, la question c'est dans combien de temps, il y a vraiment un monde sans monnaie, proprement dit. Il y aura des régulations des flux, mais on ne sera plus sur de la monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Avant d'arriver à ça, avant d'en être là, je pense qu'il y a une phase de transition. Il y a un premier changement majeur qui est de passer par un revenu de vie. Un revenu minimum d'existence qui est versé à tous les citoyens. Ça peut commencer par la France, ça peut commencer par n'importe quel pays, ça peut être mondial. C'est un revenu qui est versé de la naissance à la mort à chaque individu, quoi qu'il fasse, qui qu'il soit, peu importe. On n'a pas à gagner sa vie, comme on dit. La vie, on l'a déjà reçue. Et par contre, on a le droit d'avoir un salaire, on a le droit d'avoir un... Du coup, ce ne serait pas un salaire, mais un revenu qui nous permet de nous alimenter, de choisir ce qu'on a envie de faire comme activité. Ça, je crois que c'est un premier socle qui va changer beaucoup de choses au niveau de la répartition et de la distribution monétaire. La deuxième chose, c'est une... J'ai parlé de biodiversité monétaire tout à l'heure. C'est, voilà, ça, ça peut être un socle universel. Et par-dessus, il peut y avoir une grande diversité de monnaies complémentaires qui vont, à des endroits locaux, à des échelles locales, régler des problèmes très particuliers et très précis. Et donc là, ça peut être une monnaie pour inter-entreprise, une monnaie qui va stimuler le commerce local, une monnaie qui va stimuler le bénévolat. Et quand je dis des monnaies, ce ne sont même pas des monnaies au sens où nous on l'entend, parce que c'est un autre concept, on est sur un autre paradigme, on n'est plus dans de la rareté de la compétition, et en avoir plus et en avoir moins, ça s'appuie sur des valeurs qui sont complètement différentes. Donc c'est même difficile d'imaginer ça aujourd'hui tant qu'on ne l'a pas ressenti ou vécu ou expérimenté soi-même. Je pense que c'est un mélange entre les deux, ce revenu d'existence et des monnaies complémentaires, non pas par millions, mais des designs différents selon les endroits et les problématiques, et à différentes échelles. Il peut y en avoir une très locale, une au niveau de la ville, une au niveau de la région, une au niveau de l'État, et il peut y en avoir une aussi qui serait par exemple pour tous les voyageurs qui voyagent à pied, ou pour des communautés de sens, des gens qui partagent ensemble des valeurs, de la musique ou quelque chose comme ça, qu'ils aient aussi leur monnaie propre.
Est-ce que tu as déjà fait, toi, l'expérience de vivre sans monnaie, sans argent ?
Un peu, oui, à différents moments et de façon différente. Là, récemment, j'avais pas d'argent et j'ai choisi de pas faire un travail alimentaire pour en avoir. C'est-à-dire j'ai choisi de continuer à faire le métier que je suis en train de développer, qui est justement ce qu'on appelle, nous, de l'activation de richesse, donc créer et accompagner sur les monnaies complémentaires, enfin, à créer des monnaies complémentaires. Et je me suis retrouvé du coup sans argent, et donc ça m'a demandé à la fois d'oser demander quand j'en avais besoin, soit à des amis, soit à des inconnus, de l'argent, et puis aussi à pas me restreindre, c'est-à-dire si j'ai envie de quelque chose et que je peux offrir, qu'est-ce que je peux offrir en échange, qu'est-ce que je peux donner. Et il se produit des choses assez intéressantes et assez surprenantes, parce que je me suis rendu compte, enfin il s'est produit pour moi des choses assez surprenantes, parce que je me suis rendu compte que jusqu'à maintenant, j'avais pas ce problème de monnaie. Je parle beaucoup d'abondance et j'ai eu la chance, en tant que fils de médecin et jeune français, d'avoir une certaine aisance financière. Et qu'aujourd'hui, c'est pas facile quand on n'a pas d'argent, et je le vois bien. Et j'ai jamais été vraiment, je me considère pas comme quelqu'un d'avare quand il s'agit de donner aux personnes dans la rue. Et du coup, de me retrouver moi à devoir demander, je sens que c'est pas facile. Je sens que c'est vraiment quelque chose qui est. Où à la fois c'est toucher une certaine forme de vulnérabilité et de mettre l'autre non pas dans une toute puissance mais dans une position dans laquelle il a la capacité, le choix d'offrir ou non.
Pour celui qui se rend bien compte qu'aujourd'hui il y a un problème, qui a envie de changer son quotidien, qui aurait envie de peut-être sortir du système bancaire mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que citoyen lambda pour s'opposer, ou peut-être pas s'opposer au système monétaire, mais en tout cas mieux le vivre, mieux le gérer et mieux construire notre avenir.
Au niveau du citoyen, la première chose qui est facile à faire, je dirais, c'est changer de banque. C'est sortir, si on ne veut pas sortir tout de suite du système, et je le déconseille parce que c'est quand même un peu radical comme solution, c'est passer au moins dans une banque éthique où on sait que notre argent va être moins mal utilisé que s'il est typiquement à la BNP ou à la Société Générale. Donc je conseille et je recommande vivement la NEF, qui est pour moi la banque la plus solide et la plus transparente de ce côté-là. La deuxième chose, ça peut être de diversifier ses échanges et de trouver à l'échelle locale peut-être soit un SEL, qui n'est pas loin, donc un système d'échange local, ou d'en créer un éventuellement avec des amis ou avec des personnes avec qui on fait des échanges régulièrement. Ça, c'est une possibilité qui demande un petit peu de mise en action et de mise en mouvement, mais qui crée vraiment une aventure humaine dans laquelle on va rencontrer d'autres personnes et faire des échanges qui ne vont pas forcément être seulement des produits, mais qui peuvent être des services aussi. Et donc là, on commence à se poser des questions. Quelles sont les richesses que j'ai à offrir ? Et non pas quel métier je peux faire. Qu'est-ce que j'ai à offrir, que je peux faire avec mes mains, que je sais, que je peux transmettre, etc. Et vice-versa, quelles sont les richesses chez l'autre dont j'ai besoin ? Et donc là, on se rencontre. Là, il y a une vraie rencontre où on se découvre, on découvre l'autre, et puis on peut s'aider les uns les autres à découvrir « mais non, mais tu sais faire ça, et moi ça m'intéresse vraiment, moi pour moi ça, ça a de la valeur, parce que je sais pas le faire ». Donc là, il y a quelque chose d'intéressant qui se produit. Une dernière solution, je dirais, c'est de lancer justement une aventure de monnaie complémentaire, c'est de trouver quelles sont les personnes autour de soi qui sont dans la même dynamique, qui ont envie de créer une autre forme d'échange, une autre forme de monnaie. Et sans aller attaquer l'euro, il n'est pas question d'attaquer l'euro, il est question de créer autre chose et de se dire, ok, quelles sont nos valeurs ? Quelle est la mission de cette monnaie ? Si on crée une monnaie pour créer une monnaie parce que ça fait bien, elle va pas durer longtemps, mais quel projet de société elle va servir? Est-ce que c'est relocaliser l'économie? Est-ce que c'est améliorer le tri et la collecte des déchets? Est-ce que c'est améliorer les échanges économiques? J'en sais rien. Enfin, où il y a plein de possibilités, mais de trouver un projet, et on va greffer une monnaie, un système monétaire, pour fluidifier les échanges ou pour améliorer les échanges au service de ce projet. Après, il y a la question, la dernière que j'aime bien, c'est la question intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je vis dans ce qui se passe, de se questionner, de voir, non pas juste avec l'extérieur ou avec ce système, mais qu'est-ce que je vis émotionnellement par cette sensation du manque d'argent ou de l'impossibilité de faire des échanges alors que pourtant toutes les richesses sont là.
Merci Étienne.
Mais avec plaisir.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond.